La collection Lambert vous invite à découvrir ou redécouvrir les œuvres permanentes installées dans la cour et celles visibles depuis les fenêtres du musée, dans un parcours intérieur-extérieur. Elles sont monumentales ou plus discrètes, voire cachées, mais tout imprègne les lieux, raconte l'histoire d'amitié d'Yvon Lambert avec les artistes et participe à l'identité de la collection. Inscrite en lettres majuscules noires sur le mur de façade de l'hôtel de Caumont, l'œuvre Silent in the Museum a été réalisée par l'artiste écossais Douglas Gordon. Est-ce un clin d'œil au film Papillon de 1973 avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, dans lequel le mot « silence » est inscrit sur le mur de la prison? Ou est-ce une injonction pour le visiteur? L'œuvre invite en tout cas chacun à entrer dans le musée en se préparant à vivre une expérience unique dans un lieu qui l'est tout autant. Plus que le silence, l'artiste propose surtout un temps de pause pour se concentrer sur ses ressentis et ses émotions. Sur le fronton de la porte d'entrée du musée, l'artiste coréenne Ko Jung-ha a disposé des petites figurines d'animaux peintes. Extrêmement discrète, l'installation réalisée pour l'ouverture du musée en 2000 se dévoile aux visiteurs les plus attentifs ou curieux qui lèvent la tête et prennent le temps de regarder. Chargée d'une grande symbolique, ces petits animaux se font les gardiens silencieux de l'entrée du musée. Les habitués de la collection connaissent peut-être une autre œuvre de Ko Jung-ha, présentée à l'intérieur du musée. Le chemin qui nous mène quelque part est visible en levant la tête là aussi, au détour de l'une des salles du rez-de-chaussée. Ko Jung-ha a dessiné un assemblage de cercles, chemin mystérieux et presque invisible, réalisé au typex sur le plafond blanc. Les statements iconiques de Lawrence Wiener, grand artiste américain de l'art conceptuel, habitent les lieux et sont autant de propositions sculpturales, d'espaces mentaux que les visiteurs peuvent s'approprier. Réalisé directement sur les murs, l'artiste parvient à créer avec ses mots une relation entre l'espace, le visiteur et l'œuvre. Down and out and down and out est une œuvre qui évoque aussi bien le poème minimal et répétitif de Gertrude Stein, « A rose is a rose », que les inscriptions sur les frontons des temples antiques ou la phrase de Paul Valéry inscrite sur le palais de Chaillot à Paris. Aux quatre coins de la cour, l'œuvre se lit en se déplaçant, ajoutant au sens des mots l'idée d'un tournis, la sensation physique que procure sa lecture. Une autre œuvre de Wiener, Plomb, Fer blanc et Mercure rôti à point, sorte de proposition de recettes de cuisine explosive avec des métaux lourds, résonne singulièrement avec l'espace. Elle est installée sur la terrasse du restaurant du musée. Clin d'œil plein d'humour, cette étrange recette fut inscrite sur le menu pour le dîner du vernissage de la double exposition Wiener-Muniz en 2011. Après avoir embelli la cour des isolés de la prison Sainte-Anne et avoir été plébiscité par le public lors de l'exposition La disparition des Lucioles, l'installation poétique de l'artiste polonais Miroslav Halka a rejoint la cour de l'hôtel de Caumont en 2015. Elle est maintenant visible en permanence. Ses vrilles de plexiglas transparents, différentes chaque jour, reflètent la lumière, dansent avec le vent et se parent de couleurs. Le titre, 68, 200 x 8 x 8, Heaven, semble bien mystérieux. Si le mot Heaven, qui veut dire paradis ou ciel, est très évocateur et emprunte au registre religieux, la série de chiffres peut-elle être décodée ainsi ? 200 x 8 x 8 sont les dimensions de chaque vrille et 68 le nombre d'années séparant la mise en place de la solution finale en 1942 et la création de l'œuvre en 2010. Toujours profondément humaine et intime, empreinte de mélancolie, les œuvres de Balka nous parlent du passé, mais aussi de son pays, de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire collective. Juste derrière, Neil Toroni applique de manière rigoureuse ses empreintes de pinceau sur les vitres des arcades. Depuis 1966, la peinture de Toroni n'a pas varié de sa proposition initiale, qu'il a rigoureusement énoncée dans le titre des œuvres. Il représente donc à chaque fois les empreintes d'une seule couleur, d'un pinceau numéro 50, répété à intervalles réguliers de 30 cm. Il explore dans son travail la question du geste artistique, de sa radicalité et de son authenticité. Par ce geste extrêmement simple, que l'artiste déploie à l'infini sur des médiums et des espaces très différents, l'artiste se met aussi au service de la peinture, qu'il nous propose de faire simplement apparaître pour ce qu'elle est, œuvre après œuvre. Les bandes colorées du wall drawing de Sol Lewitt sont visibles sur le mur en arrière-plan. Chez Lewitt, toute œuvre est définie par son concept, et à l'image d'un musicien interprétant une partition ou d'un architecte suivant des plans, les wall drawings de Lewitt sont exécutés en respectant les indications énoncées sur un certificat. La réalisation matérielle de l'œuvre ne constitue qu'une phase du processus de création. Deux autres œuvres de Lewitt sont installées dans la salle. Il s'agit de deux structures réalisées en trois dimensions, aussi rigoureusement géométriques que les bandes de peinture apposées sur le mur. À leur côté, deux œuvres de J.P. Hein, nées 46 ans après Sol Lewitt, viennent perturber un peu l'agencement. Ces smash cubes, ou cubes écrasés, semblent rendre un hommage plein d'humour, d'ironie, mais aussi de violence aux réflexions menées par les artistes des années 60-70. Leur présence ici nous paraît presque suspecte. S'agit-il d'œuvres nouvelles que l'artiste aurait volontairement écrasé à la manière des compressions de César, ou bien est-ce des vestiges archéologiques des années 60 qu'un voyage vers un futur catastrophique nous aurait fait rencontrer ?